France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, des émissions drôles. Épisode 4, à votre écoute, coûte que coûte.
Allô ?
En ce 16 janvier 2012, à 12h30, un nombre non négligeable de Françaises et de Français se trouvent subitement et simultanément très remontés contre leur radio. Une petite fraction d'entre eux prend même le temps de le faire savoir en rédigeant des commentaires outrés sur la page internet de l'une des émissions. Les propos qui les ont choqués, les voici.
Notre premier auditeur de notre première émission se verra offrir mon dernier ouvrage, encore, en deux mots, des sons qui soignent.
Et oui, ainsi que mon dernier essai scientifique, morphopsychologie, mythe ou réalité, tous deux parus aux éditions Amis d'en France.
Alors, qui a gagné les cadeaux?
Bonjour, je suis Julien de Paris.
Bonjour Julien, vous êtes notre tout premier auditeur.
Bonjour Julien.
Merci pour vos livres, j'avais déjà celui de Philippe.
Ah. Eh bien, on espère que vous aimerez les lire, comme autant que nous avons aimé les écrire. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui vous aider? Vous aider à vous aider vous-même, Julien?
Eh bien, j'ai une grosse entorse, crois, 10 jours. J'ai voulu voir le médecin, mais je suis allé aux urgences et j'ai pas pu être reçu, il y avait trop de monde. Moi, je travaille, j'ai pas le temps d'attendre, alors je suis reparti.
Ouais, non, c'est vrai que parfois, c'est vraiment très long.
Voilà.
Oui, je fais un cœur pour être par un interne, alors... non, mais il faut être chômeur pour avoir le temps de se faire soigner. Par contre, il faut bosser pour cotiser à la sécu.
Oui, là, c'est un peu un raccourci quand même, vous savez, les chômeurs cotisent à la sécu.
Oui,
alors, vous étiez à quel hôpital, Julien?
Lariboisière.
Oula, oui.
Ah oui, c'est vers la gare du Nord, ça. Mm. Ouais, non, c'est vrai, il y a souvent beaucoup de monde, là-haut.
Mm. Je dis pas les chômeurs cotisent sûrement, mais il y en a qui profitent des allocations familiales, qui ont tout le temps d'aller bien se faire soigner.
Oh, je vous sens plein de colère, Julien. Qu'est-ce qui vous casse les pieds? Qu'est-ce qui vous casse le pied? Vous savez, tout le monde n'abuse pas des allocations familiales, il y a des gens qui les méritent vraiment.
Cette émission, c'est À votre écoute, coûte que coûte, un programme de service aux auditeurs qui se propose de leur venir en aide en les prenant au téléphone. Une sorte d'allô macha, mais deux jours, dont les deux animateurs, qui sont aussi des médecins, s'avèrent rapidement perclus de préjugés. Deux jours après la diffusion de ce premier numéro, le nombre de commentaires sur la page internet ne diminue pas. Même le magazine Télérama reçoit des lettres furieuses d'auditeurs et d'auditrices qui se plaignent de ce nouveau programme. Ils le trouvent tout à la fois choquant, affligeant, scandaleux, pas drôle du tout, à vomir, honteux, de mauvais goût ou encore insupportable, selon la recension précise qu'en a fait quelque temps plus tard le chercheur en sciences de la communication Frédéric Punière-Saavedra. Le pic du nombre de commentaires, 813, est atteint après la diffusion de l'émission du 18 janvier, dont voici un extrait.
Il disait qu'en fait, moi et ma famille, on a des soucis un petit peu.
Oui, une famille nombreuse ?
Oui, 5 enfants.
Ah, bon, enfin, c'est pas si nombreuse que ça, une famille moyenne. On espère que madame ne va pas s'arrêter là.
Voilà, ça dépend quand même. On vit dans des conditions difficiles.
D'accord. C'est-à-dire ?
Parce que je travaille 12 heures par jour dans le bâtiment. Ma femme fait des ménages aussi.
Ben, vous ne vous laissez pas aller, c'est bien.
Ben oui.
Voilà. Mais ce qui m'inquiète, c'est la santé des petits, en fait. On nous dit que l'immeuble, il y a du plomb dans la peinture, que dans les matériaux de construction.
Ouais, alors, monsieur, il faut déménager tout de suite. C'est très dangereux pour votre famille, ça. Il ne faut pas rigoler avec ça.
On vit à l'hôtel, en fait, c'est ça.
Il y en a qui ont de la chance. Du coup, c'est un peu les vacances toute l'année, dites-donc.
Non, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas encore les papiers définitifs. On est arrivé d'Afrique il y a 8 mois et on est obligé de payer le marchand de sommeil,
Le marchand de sable?
Non, de sommeil.
Marchand de soleil?
De sommeil, dites-le.
Non, il y a du soleil. Un marchand de lit, de matelas, monsieur.
Non, le marchand de sommeil.
Les réactions s'emballent encore un peu plus quand un médecin habitant Étampes, dans l'Essonne, adresse une plainte au procureur du tribunal de grande instance de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal de la médecine. En cause, un conseil donné dans l'émission au sujet d'une crème à la cortisone que les animateurs conseillent d'appliquer sur un herpès labial, ce qui est une hérésie médicale. Mais il faut aussi nuancer la réception catastrophique de l'émission. Sur les 813 commentaires du 18 janvier 2012, près d'un quart, 221 exactement, lui sont en effet favorables. Les expressions qui reviennent le plus dans ces réactions-là sont « très bien »,« très drôle » et même « merci ».
Eh ben vous êtes amoureux, mon vieux.
On sait par ailleurs que les personnes qui font l'effort de se manifester dans les commentaires sont d'abord les plus remontées, ceux qui sont contre, plutôt que ceux qui sont pour.
Vous êtes vraiment deux gros connards.
Ah, deux gros canards,
Simon. Non, là, je voulais vraiment dire deux gros connards.
Ainsi se dessinent deux camps. Les auditeurs qui trouvent à hurler de rire ces deux faux médecins, caricatures de bourgeois aux idéaux réactionnaires, et ceux qui, soit n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une blague, soit trouvent que cette blague est d'un absolu mauvais goût. Car oui, bien sûr, il s'agit d'une parodie qui vise à se moquer non pas des personnes qui appellent, et qui sont d'ailleurs des acteurs, mais des personnages que représentent ces deux faux médecins.
Bonjour Margaret, bonjour Philippe.
Docteur.
Oui, docteur.
4 mois après le premier épisode d'À votre écoute coûte que coûte, le médiateur de Radio France, Jérôme Bouvier, résumait ainsi le courrier qu'il avait reçu des auditeurs dans l'émission de France Inter intitulée Service public et présentée par Guillaume Herner.
Pour essayer de résumer au moins mal tous ces messages, j'avais classé ces courriels en 4 petits paquets. Les messages scandalisés de ceux qui prenaient les propos de Margaret et Philippe de Beaulieu au premier degré. Ceux qui se demandaient s'il s'agissait là d'une véritable émission de relation avec l'auditeur ou d'une fiction, du lard ou du cochon, ai-je lu 100 fois. 3e paquet pour traduire la parole de ceux qui penchaient clairement pour l'humour et la fiction, proposant même des noms d'actrices ou d'acteurs qu'ils avaient trouvés sur de nombreux sites internet pour incarner les deux Beaulieu. Et 4e paquet, le plus petit à l'époque, celui des messages d'auditeurs ravi par ces 10 minutes d'humour transgressif, par l'originalité décapante de ce qu'un de nos auditeurs appelait un orni, un objet radiophonique non identifié. Alors quelques semaines plus tard, eh bien coûte que coûte, est toujours et de loin le premier sujet d'interpellation de nos auditeurs. Le flot a quelque peu baissé, mais ce sont toujours bien 20 à 30 messages qui m'arrivent chaque jour pour dire quoi ? Eh bien à peu près les mêmes choses, mais les volumes des différents paquets ont quelque peu changé. Précisons d'abord qu'aussitôt notre dernier rendez-vous, j'avais reçu des dizaines de messages surpris de tant de rejets de la part de certains auditeurs pour dire surtout ne changez rien. Dernière reçue, hier, celui de Lenny qui nous écrit « C'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal avec cette émission, ce ton bizarre. J'ai été long à m'y habituer, mais aujourd'hui je suis complètement convaincu de son utilité. C'est un humour comme on n'en entend plus sur les ondes depuis des années. C'est, je cite toujours Lenny, génialissime. »
Philippe Val, vous êtes journaliste et humoriste. Vous avez dirigé le journal Charlie Hebdo durant 17 ans jusqu'en 2009, où vous avez pris la tête de France Inter jusqu'en 2014. Et c'est donc vous qui avez mis à l'antenne l'émission À votre écoute, coûte que coûte. Vous riez énormément en réécoutant ces archives.
Ah oui, oui, vraiment. C'était un moment formidable. On a déjà la préparation. Pour tout vous dire, on a mis des mois à préparer ça. D'abord avec Laurent, Lafitte, on a prémédité notre mauvais coup. Ensuite, on a fait rentrer Zabou Bretman dans l'association de malfaiteurs.
Parce que au départ, c'est votre envie de faire intervenir Laurent Lafitte sur l'antenne de France Inter sans avoir d'idée exactement.
Au début,
de ce que ce
voilà, j'ai vu Laurent sur scène et je l'ai attendu à la sortie des artistes. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses de la radio, absolument. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire de la radio. Donc on a réfléchi. Ensuite, on a réfléchi avec Zabou. La chimie a pris merveilleusement entre eux. Et on est parti dans cette histoire qui, voilà. Moi, j'ai reçu 1 millier de mails d'insultes le premier jour de diffusion, à peu près. Et après, c'était touchant parce que j'ai reçu beaucoup de mails d'excuses. De gens qui disent « Ah non, mais je vous ai envoyé un mail d'insulte, mais vraiment j'ai eu tort. J'arrête ma voiture au bord de la route pour écouter, parce que tellement je trouve ça génial. » Enfin, les gens, après, ils ont aimé. Mais j'ai eu tout le monde au début. J'ai eu les aveugles, les associations d'handicapés, antiracistes, le CRIF, l'LGBT, tout le monde m'a tombé dessus, tout le monde. Et alors, le CSA, qui m'a menacé de toutes ses foudres, et je lui ai dit « Vas-y, envoie les foudres, on verra bien, mais je continue. »
Alors, quel a été votre rôle dans la conception de cette émission et finalement, comment est-ce que vous en êtes arrivé ou ils en sont arrivés à cet orni, justement, cet objet radiophonique non identifié ?
On a beaucoup discuté d'un... Je ne me souviens plus qui a fini par tomber sur l'idée de faire une libre antenne, une fausse libre antenne. Et là, c'était parti. Ils avaient envie d'incarner ces personnages. Et après, comme ils avaient énormément d'amis aux Français, dans partout, qui pouvaient nous faire des tas de personnages, des tas de faux auditeurs, des tas de voix différentes avec beaucoup de talent, hein, évidemment. On croit vraiment que c'est des auditeurs.
Mais alors, la première cible de cette émission, est-ce que ça n'est pas la radio elle-même, ou plutôt ces émissions un petit peu de libre antenne avec le côté développement personnel? Est-ce que c'est pas ça déjà la première des ironies, c'est de se moquer de la radio?
Un peu, bien sûr, parce que je pense qu'il n'y a pas de choses vraiment drôles qui ne se moque pas un peu d'elle-même, pour commencer. Donc la radio doit se foutre d'elle-même un peu, ça j'en suis certain quand même.
Avec ce livre, Encore des mots qui soignent, donc il y a le livre que Margaret de Beaulieu a écrit.
Il y avait un site internet où on pouvait voir d'où ils venaient, les Beaulieu. Elle, c'est son père était un Margaret, on disait, parce que son père était un Allemand qui vivait en Argentine. Donc évidemment, c'était un ancien nazi, enfin bref, on découvrait au fur et à mesure. Alors ils avaient eu 5 enfants, dont 2 jumeaux, mais un a été bouffé par le berger allemand. Donc on connaissait leur vie, on avait fait une biographie. Bon voilà, alors c'est vrai qu'on se moquait de la radio, mais surtout, on avait à cœur que ce soit très indigérable au premier abord. Vous savez, on avait tenu le secret absolument dans la station.
Est-ce que l'idée c'était seulement de faire rire, ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté de faire prendre conscience de certaines discriminations ou des discriminations en général?
Évidemment, oui, bien sûr, mais quand même. L'idée de faire rire, mais d'un rire libérateur. Vous savez, moi je crois beaucoup au rire qui nous surprend nous-mêmes. Parce que ça révèle beaucoup de nous, puis surtout c'est le meilleur de tout, de tous les rires. On s'attend pas nous-mêmes à rire à ce pourquoi on rit. Et ça c'est ce qu'il y a de plus beau dans le rire. Et ça c'est ce que j'aimais tellement dans le travail de Zabou et de Laurent, vraiment.
Eh ben, je rappelle à nos jeunes auditeurs qu'il n'y a pas que le préservatif qui protège, il y a également le respect, la patience, l'abstinence et l'amour platonique.
Alors, je vous sens très dans l'agressivité. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de l'utérus?
Est-ce que vous êtes de la jaquette, monsieur?
Pardon?
Est-ce que vous êtes de la jaquette?
Homophobie, machisme, sexisme, racisme, discrimination anti-pauvre, toutes les intolérances sont mises en scène dans l'émission. Ce qui semble poser problème aux auditeurs qui se manifestent dans les commentaires, c'est qu'il n'est jamais précisé qu'il s'agit d'une fiction. Le pari de Laurent Lafitte et Zabou Bretman est de faire confiance aux auditrices et aux auditeurs qui comprendront bien par eux-mêmes qu'il s'agit d'une parodie et non pas d'une émission sérieuse.
Voilà, moi j'aurais voulu vous parler du mariage gay.
Oula, oui.
D'accord. Et oui, on est tous très inquiets, Arnaud.
Ouais, ça c'est sûr que c'est inquiétant de constater qu'il y a encore des gens qui continuent à s'opposer à ce qui semble être un progrès évident.
De ?
Qu'est-ce qui est un progrès ?
Le mariage homosexuel.
En quoi c'est un progrès ?
Bah, il n'y a pas de raison qu'ils soient traités comme des sous-citoyens et qu'ils n'aient pas les mêmes droits.
Bah, enfin, vous avez le Pax, hein?
Oui, mais le Pax, ça, c'est pas comme le mariage, ça, c'est autre chose. Moi, je suis paxé et je l'ai pas du tout vécu comme un mariage, par exemple.
Ouais, et ça vous suffit pas avec votre petit copain?
Ah non, moi, je vis avec une femme.
Bah, attendez, vous venez de dire que vous étiez pour le mariage gay.
Oui, alors Philippe, tu sais, ce terme de gay me gêne toujours. Ça sous-entend que les gens normaux sont tristes, hein, oui. Quand même.
Non, mais moi, je me sens pas plus normal que mes amis homos.
Ah. Ouais, d'accord. Donc vous en fréquentez quand même.
Bon, ça va être un peu compliqué d'avoir une conversation objective, du coup.
Bah oui. Alors, attendez, Arnaud, imaginons... Bon, d'accord, alors, soyons fous, on accorde le mariage aux pédérastes. Alors, on s'arrête où, après? Ça, moi, que je comprends. Moi, par exemple, j'adore mon épagneul, hop, je vais l'épouser. Allô?
Il paraît que vous n'avez écouté que la première émission avant la diffusion,
non.
Et qu'ensuite vous n'avez pas écouté avant.
Je n'ai même pas écouté la première. Ils ont voulu me la faire écouter, j'ai dit non. J'avais une confiance absolue en eux, et je pense que ça marche comme ça. Ça marche comme ça.
Vous voulez dire que si on ne fait pas
chacun
confiance...
Chacun prend son risque. Ils prennent leur risque, je prends le mien. Alors bon, après le ciel m'est tombé sur la tête, mais c'est un ciel dont on se remet. Après tout, c'est... Voilà. C'est pas parce que le CSA m'appelait toutes les heures... pour que j'enlève l'émission, pour que je mette attention à l'émission d'humour. J'ai dit ça, jamais je ferai ça, jamais.
Pourquoi?
Bah parce que les gens sont intelligents, ils ont tous compris au bout d'un moment. Et quand on
Sauf ceux qui écrivaient, visiblement.
Oui, mais ceux qui écrivaient ont arrêté d'écrire. Et parmi ceux qui écrivaient, une fois de plus, dès qu'ils ont compris que c'était quelque chose de drôle, de profondément transgressif, mais en même temps fraternel, enfin, ils se sont convertis.
En fait, est-ce que ce qui a choqué, ça n'est pas que ces propos des faux docteurs, en réalité, sont des propos qui ne sont pas très éloignés de ce qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est pas ça qui était choquant, justement?
Si, mais finalement, ils balancent des stéréotypes et ils les rendent absolument grotesques sans avoir l'air de les dénoncer. Et c'est ça qui est fort. Enfin, je pense que c'est ça qui est... C'est très libéral, d'une certaine façon. Et c'est libérateur aussi, mais en même temps, c'est libéral. Ils disent des choses qui se disent. Sauf que là, on se rend compte d'à quel point c'est impossible et à quel point c'est scandaleux. Vous voyez.
Et puis ce qui a choqué peut-être aussi, c'est que c'est à eux qu'on donnait la parole et le maximum de paroles. Alors que d'habitude, dans les émissions d'humour, les personnes qui sont ceux qui discriminent sont pas ceux qui sont les maîtres du jeu ou les meneurs de jeu.
C'est ça, absolument. Et puis, ça donne aucune leçon à chacun de tirer sa leçon. Après avoir bien rigolé, à chacun. Et mais ça dit pas, faut penser comme ci, faut penser comme ça. Les Anglais et les Américains, ils ont une façon de deux. Les gens qui font du stand-up, par exemple, de l'humour de radio, de l'humour, ils ont deux noms. Un pour ceux qui font rire et deux pour ceux qui se font applaudir. Les clappers. C'est pas la même chose que les autres. Les autres, c'est des humoristes. Les autres, quand on dit, par exemple, si je sais que vous aimez pas, je sais pas moi, Macron ou quel bord politique, je vais dire des vannes dessus. Je sais que vous allez m'applaudir. Je vais faire 2-3 vannes. Bon, mais moi, ça me fait chier ça. J'aime bien que ça se passe autrement, que ça soit plus créatif, plus difficile à faire, parce que vous savez, c'est des mois et des mois d'écriture. On va pas pleurer, hein. On était content de le faire, mais bon, enfin, c'est eux qui ont travaillé. C'est beaucoup de travail, beaucoup plus que de faire une petite revue de presse le matin et de dire du mal d'une femme ou d'un homme politique.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours tenu par les personnages fictifs de Beaulieu, c'est décomplexé et qu'au fond, aujourd'hui, on peut l'entendre davantage. Mais de façon, cette fois-ci, non pas ironique et non pas parodique.
Non, je pense qu'une fois que ça a fait rire par le côté énorme, on ne peut plus l'entendre de la même façon. Après, c'est tamponné par le fait qu'on a trouvé ça grotesque. J'ai fait un bouquin sur le rire il y a 2-3 ans et pour cela, avant, j'ai, entre autres auteurs, relu vraiment très précisément Rabelais. Rabelais, il fait ça tout le temps. Enfin, il fait beaucoup ça. Et dans une époque où c'est plus dangereux. Mais il est protégé. Comme, sans doute, moi, je l'étais par ma fonction. Voilà. J'étais patron de la radio. On me foutait la paix.
Votre...
Écoute, coûte,
que...
Coûte.
Anima sana...
In corpore sano.
Un esprit sain dans un corps sain.
L'esprit, c'est elle.
Le corps, c'est lui.
Docteur Philippe...
Et Margaret...
De Beaulieu.
Pour préparer cet épisode, j'ai interviewé au téléphone Zabou Bretman, justement. Elle m'a dit qu'elle avait gardé de très bons souvenirs de l'expérience d'À votre écoute coûte que coûte. Mais malgré tout, elle se souvient aussi que, au tout début, même ses amis et ceux de Laurent Lafitte avaient des doutes quant à leur démarche, tous n'approuvaient pas le ton de l'émission et leur demandaient « qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»
Alors attention monsieur, nous sommes à votre écoute, mais restons courtois. Hein ?
Est-ce que si il avait été plus explicite que c'était une parodie, l'émission aurait été, selon vous, altérée?
Moi, ouais, ça n'aurait aucun intérêt. Il fallait que le présupposé marque l'émission. Au début, il fallait que les gens croient que c'était vraiment... Après, ils ont compris. Et puis les sketchs ont continué à exister. Mais il fallait au moins qu'il y ait ce tampon de « on veut pas que vous sachiez ». Après, les auditeurs, quand ils ont su que c'était prémédité, ils savaient que il fallait faire comme si eux-mêmes rentraient dans le jeu, comme si eux savaient pas que c'était prémédité. Donc ils jouaient eux-mêmes une partie du sketch. Et pour que tout le monde joue le jeu, il fallait vraiment que la surprise existe pour de vrai au début, même si après elle a continué à exister d'une façon fictionnelle.
Et dans votre entourage proche, est-ce que des gens vous ont reproché d'avoir fait cette émission, de l'avoir mise à l'antenne ?
Le président de Radio France à l'époque était pas au courant.
Jean-Luc Hesse.
Je lui ai dit, je te préviens, je vais foutre un truc à l'antenne qui va, tu vas l'entendre parler, tu vas avoir des coups de fil, ça va être, mais fais-moi confiance. Il me dit, ok, je te fais confiance, c'est bon.
Il vous a pas reproché de l'avoir
fait ? Non, il s'est beaucoup marré. Il écoutait ça tous les midis lui aussi dans son bureau présidentiel. Comme tout le monde à Radio France, tout le monde écoutait ça. Tout le monde écoutait ça.
Alors n'hésitez pas, c'est une émission de service et de libre antenne. Appelez-nous au 01
56
40
23
95.
Le vendredi 29 juin 2012, jour de la dernière, l'émission est exceptionnellement en direct et les invités sont censés être les vrais docteurs de Beaulieu.
Aujourd'hui, Marga, nous partons à la maison, j'ai envie de dire, puisque c'est du côté du Vésinet que nous partons aujourd'hui, Marga, et j'ai presque envie de dire à la maison. Alors, le Vésinet, c'est une commune résidentielle de l'ouest parisien s'ordonnant autour de parcs, lacs et rivières artificielles desservies par des artères vertes aux arbres plus que centenaires. Mmh. Une ville qui s'orne de quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris en 2001.
Ouh, j'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un petit coin de paradis. Oui, puisque nous y vivons.
Et oui, c'est pour ça qu'on le savait. Qui accueillons-nous du Vésinet ? Des voisins peut-être, un couple mystère en tout cas. Alors pourquoi vous n'avez pas eu envie de donner votre identité ? Maladie vénérienne sans doute.
Non, pourquoi ?
Ben je sais pas, c'est comme quand on a honte quoi.
Je comprends pas du tout, c'est plutôt vous qui devriez avoir honte.
Ouh là là, c'est pas très bien parti, dites donc, on va se calmer hein.
Mais nous sommes très calmes, Madame Bretman. Allô ?
Oui ?
Pourquoi avoir arrêté l'émission ?
Bah, tout simplement parce que c'était ils faisaient presque exclusivement ça, alors qu'ils avaient des tournages, ils avaient des etc. Et alors ?
Donc c'est une question de temps.
Oui, de temps.
Et puis tout était très très écrit, en fait, à la virgule près.
Très écrit.
Pas du tout improvisé comme les auditeurs.
Beaucoup
certains auditeurs ont cru que c'était improvisé.
Non, beaucoup de travail d'écriture.
Avec le recul, j'ai l'impression qu'un autre aspect de cette émission a provoqué la fureur. À votre écoute, coûte que coûte, était en effet une émission d'humour qui relevait d'un genre en particulier, celui du canular. Un canular, nous dit le Larousse, c'est une action ou un propos qui a pour but d'abuser de la crédulité de quelqu'un. Le mot canular a été inventé au 19e siècle par des étudiants de l'école normale supérieure pour désigner un bizutage intellectuel, l'action de faire croire à quelqu'un une chose fausse dans le but de le piéger. Canular vient du mot canule qui désigne en médecine le tuyau par lequel on introduit du liquide dans un corps. Comme il est en général désagréable de subir un traitement par canule, le mot canular a été extrapolé par les étudiants normaliens pour désigner le fait d'embêter quelqu'un en l'intoxiquant par des mensonges qui paraissent crédibles. Comme quoi les intellos peuvent eux aussi être des tortionnaires entre eux, confère l'épisode précédent. Personne n'aime être victime d'un canular. Mon hypothèse est que certains auditeurs d'Inter se sont sentis trahis par leur radio, qu'ils voyaient comme un espace dans lequel ils n'avaient pas à être confrontés à des paroles qui les choquent, même sous une forme humoristique. Philippe Val, que pensez-vous de cette hypothèse ? Est-ce que des auditeurs de la station ont pu se sentir agressés, même sachant qu'il s'agissait d'un canular ?
Vous avez raison, les gens, certains ont dû être vexés parce qu'ils ont dit « Merde, j'ai pas compris, quoi. »
Voilà, ils se sont dit « Sur France Inter, j'ai pas envie d'entendre ces mots-là, même de façon parodique. »
C'est ça. Mais justement, sur une radio de service public, on doit s'attendre à pouvoir un peu tout entendre. On doit pouvoir avoir l'esprit large et entendre des choses peut-être qui nous déplaisent ou qui nous choquent. Mais c'est la radio de tout le monde. Voilà,
c'est un espace commun.
C'est un espace,
donc un espace
commun.
Où
c'est un
on espace... doit pouvoir tout entendre.
Dans l'espace commun, il y a forcément des choses qui se disent et qui se font, qui nous heurtent. Et c'est toujours amusant, au fond, d'être confronté, même si parfois ça peut être désagréable, mais d'être confronté à la façon dont l'autre pense, qui n'est pas du tout la sienne.
Donc on doit pouvoir écouter ce avec quoi on n'est pas du tout d'accord.
On doit pouvoir écouter, oui, c'est nécessaire, je pense que c'est nécessaire. C'est presque une maladie d'aujourd'hui, parce que finalement, l'habitude aussi des réseaux sociaux a radicalisé ça. On n'est qu'entre personnes qui sommes d'accord et contre d'autres qui sont pas comme nous, qui nous déplaisent. On se bâtit contre. Alors que, normalement, dans une démocratie moderne, libérale, on devrait pouvoir pas se bâtir que contre. Mais avec, et avec y compris, ce qui nous rebute un peu des fois.
Au revoir Marga.
Au revoir Philippe.
Docteur.
Au revoir Laurent.
Docteur.
Ah ben non.
Au revoir Zabou.
Prêteux.
Ah ben non.
Le canular est une tradition radiophonique. Sur Europe 1, dans les années 90, l'animateur Arthur avait par exemple institué une séquence qui s'appelait « La baston à la maison », dont le slogan était « C'est parce que c'est cruel que c'est bon ». Un auditeur ou une auditrice appelait en direct son conjoint et s'il parvenait à l'énerver suffisamment, il ou elle gagnait un cadeau.
Je vais me remettre à fumer, hein.
Pour provoquer l'énervement maximal, cet auditeur faisait croire à une tromperie ou alors refusait subitement de se rendre chez ses beaux-parents pour Noël. Évidemment, la personne appelée à son insu se faisait souvent ridiculiser devant des millions d'auditeurs et on n'est pas sûr que le cadeau éventuellement reçu ait jamais suffi à compenser cette humiliation.
Signé Furax.
Une émission de 1963 préfigurait un peu le canular radiophonique, quoique de façon lointaine et gentille. Il s'agit de Malheur aux barbus. Cette série a constitué la première saison du feuilleton Signé Furax, amené à connaître un grand succès. Il s'agissait de raconter l'histoire d'un gang de malfaiteurs s'en prenant exclusivement aux barbus. Je ne sais pas si des auditeurs se sont laissés prendre à cette fausse enquête. En tous les cas, elle jouait un peu sur l'ambiguïté de sa véracité. Voici un extrait du premier épisode, enfin en réalité une reconstitution effectuée en 2013 par France Culture à partir de scripts.
Premier épisode.
Car les bandes originales n'ont pas été conservées.
Ce soir-là, entre 20h45 et 9h moins le quart, à la poterne des Peupliers, dans le 13e arrondissement.
Halte.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Retire ton cache-nez.
Hein ? Voilà.
Elle est à toi cette barbe ?
Oui, je...
Fais voir.
Aïe.
Ouais, elle est bien à toi. Bon, bah suis-moi.
Oh, monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez.
Monte dans cette bagnole.
Mais je vous jure, je peux très bien aller à pied.
Monte ou je te descends.
Ici, c'est une fiction humoristique qu'on vient d'entendre. Et à votre coûte que coûte, c'était aussi une fiction humoristique et un dispositif qui allait au-delà de la radio, puisqu'il y avait des moments mensonges, entre guillemets, en tout cas, des cachotteries. Personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Donc c'était un dispositif, en réalité, plus qu'une émission de radio.
C'est ça. Mais je pense que c'est intéressant, les dispositifs. C'est une dramaturgie. Ça permet d'asseoir une fiction et de donner des touches de réalisme, de réel à la fiction. C'est très important. Quand on peut, quand on a l'idée du dispositif, ça aide à la dramaturgie.
Durant ces 4 épisodes, nous avons parlé du rire à la radio. Nous avons laissé de côté le rire dans les podcasts indépendants, ceux qui ne sont pas produits par une station de radio. Nous n'avons pas non plus parlé du rire sur les réseaux sociaux. Or, sur le numérique, les écritures humoristiques sont différentes, notamment parce qu'on s'adresse à une audience plus précise. Est-ce que cela change notre sens de l'humour ? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la radio reste l'un des lieux de l'agora humoristique, où l'on rit de la même chose, ensemble et en même temps.
Ah, vous riez ?
Oui, alors...
Vous forcez pas, hein ?
Pas du tout.
C'était Des émissions drôles, une série en 4 épisodes de Salle des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost, prise de son Tara Bouclifa, mixage Manuel Couturier, documentation musicale Pierre Plantin, documentation INA, Inès Barja. Thank you.